chrono. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 396. Et donc, on reprend une thématique qu'on avait abordée il y a ça plusieurs années, mais qui aujourd'hui est de forte actualité. C'est la place de la rhétorique dans la formation. Et la montée en puissance de la rhétorique, à la fois pour les acteurs de la formation, que sont les formateurs par exemple, mais à la fois aussi pour d'autres, de nouvelles formes de rhétorique, puisqu'on n'a pas la même rhétorique qu'au siècle dernier. Donc les choses changent parce que les gens changent. Et donc pour ça, il nous fallait un expert des arts oratoires. Et c'est Narcisse Fomekong qui est venu, qui nous a été recommandé par Denis Lamontagne, donc de Todd Cursus, qui nous a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Et donc on a le plaisir de l'accueillir. Narcisse, bonjour.
Merci, bonjour, c'est Stéphane.
Eh bien, commençons directement. Narcisse Fomekong, la rhétorique, qu'est-ce que c'est concrètement?
Alors, peut-être il va falloir déjà commencer ce passé déblayage conceptuel. La rhétorique vient du grec rhétorique, qui signifie tout simplement technique. Il s'agit là de la technique de l'art oratoire, parce que bien évidemment, l'art oratoire, tout comme tout art, respecte un certain nombre de canevas, et celui-là qui respecte ce canevas-là, qui applique les règles qu'il faut afin de produire le discours qu'il faut, est dans ce qu'on appelle l'art de la rhétorique, qui a évolué bien évidemment parce qu'on sait que la rhétorique dans la Grèce antique faisait partie des arts, des sept arts libéraux, et c'était une discipline enseignée, et elle a un peu perdu de son aura à un certain siècle, surtout avec la venue de l'imprimante et surtout le développement de l'écrit. Et mais de plus en plus, on se rend compte que elle fait son retour dans les enseignements, dans les formations et dans les différents concours. Bien évidemment, c'est parce que on est dans ce qu'on appelle ou ce que nous appelons de plus en plus la renaissance de la rhétorique ou de l'art oratoire. Donc, de manière succincte, c'est l'art de bien s'exprimer, c'est la discipline qui est dédiée à cet art.
Alors justement, puisqu'on est dans les définitions, souvent, bah, il y a les concours d'éloquence. Est-ce que l'éloquence, c'est de la rhétorique?
Alors, l'éloquence, non, parce que être éloquent est un peu inné. Je préfère dire un peu dans la mesure où on peut aussi développer son éloquence. Il y a des personnes qui sont nées avec des aptitudes aisées, faciles à s'exprimer et qui, par la force des choses, par le déterminisme environnemental, parviennent à être plus éloquents que les autres. Mais je ne dirais pas qu'elle est totalement innée dans la mesure où on pourrait davantage approfondir cette technique et développer son éloquence. Toutefois, l'éloquence est intrinsèque à l'orateur. Et pourtant, la rhétorique est une discipline qui peut s'enseigner à plusieurs personnes. Vous comprenez qu'on peut avoir des éloquences différentes, on peut être éloquent, mais pas comme tel ou tel autre, parce qu'on a des aptitudes qui sont liées non seulement à notre manière d'articuler, qui sont liées aussi aux idiolectes et aux sociolectes dans lesquels on se trouve. Donc voilà, l'éloquence n'est pas la rhétorique, mais celui qui pratique la rhétorique doit être éloquent.
Ah oui. Donc certains disent, donc il y a une école en France, l'école française de l'éloquence, je crois, et donc disent l'éloquence, c'est plus cette capacité mimétique, cette contagion émotionnelle qu'on donne aux gens. On est inspirant, comme on dit. Est-ce que c'est ça?
Et bien évidemment, parce que si on entre dans ce qu'on appelle les jeux oratoires, vous verrez qu'on distingue ce qu'on appelle les concours d'éloquence et les débats ou d'autres concours, procès simulés ou
Alors,
d'autres
est-ce que
types de
tu peux
concours.
rappeler ce qu'est un concours d'éloquence pour ceux qui ne savent
Alors,
pas?
un concours d'éloquence, c'est un concours qui est organisé afin de distinguer la personne qui s'exprime le mieux et qui se distingue par le verbe, par le fond et la forme de son discours. Et donc, les concours d'éloquence sont organisés pour pouvoir mettre en parallèle ou tout au moins en compétition des orateurs qui viennent s'exprimer sur un sujet donné, mais surtout dans un concours d'éloquence, on met plus l'accent sur la forme que le fond, le style que le fond. Et ce ne serait pas le cas dans d'autres types de concours. Donc, cette émergence des concours d'éloquence est aussi liée à cette valorisation-là de la forme dans l'expression. Et ces concours sont bien cadrés et selon les organisateurs, il y a un temps précis, il y a un thème spécifique, il y a un jury et il y a surtout ce public-là qui prend parti ou tout au moins qui est atteint par l'orateur. Parce que comme on le veut bien, comme on le veut, on ne fait pas de concours d'éloquence sans public, par exemple. Et donc voilà, le public est un acteur majeur dans les concours d'éloquence.
Et alors, comment est-ce que, avant de revenir sur la rhétorique, comment est-ce qu'on peut apprendre à être plus éloquent?
Alors, comment apprendre à être plus éloquent? Alors, nous entrons là dans peut-être la formation. Elle peut être, on peut l'apprendre de diverses manières parce que je pars du principe qu'on peut être tous éloquents, mais pas de la même façon. Et donc, il y a des principes. Comment apprendre? Quelques exemples. Il suffit de, je sais pas moi, d'apprendre quelques techniques comme l'art d'organiser son discours, parce que, qu'on le veut ou pas, si on rentre dans la rhétorique, on dit être éloquent, c'est certes la capacité qu'on développe, mais il y a des bases, des prérequis. Et il faut non seulement travailler sur la gestion de son stress, travailler sur sa culture générale, sur l'agencement, parce qu'il s'agit au finish d'un jeu de mots, et il faut surtout travailler sur les techniques, ou tout au moins les figures de style, ou les figures de rhétorique qui nous permettent de mieux structurer notre éloquence. Et l'éloquence est aussi liée au non-verbal, c'est-à-dire c'est le physique de l'apparence, la gestuelle que l'on utilise, le regard, les silences que l'on peut observer dans notre prise, différentes prises de, dans nos différentes prises de parole en public. Donc c'est un ensemble d'éléments et selon les faiblesses qu'une personne peut avoir, elle peut orienter son apprentissage dans un aspect spécifique. On n'a pas tous les mêmes difficultés. Il y en a qui ont peut-être des difficultés d'articulation. Un fondateur des sociétés d'art oratoire en Afrique, j'ai nommé Binubi Homme, me confiait qu'il a, grâce au débat éloquence, pu vaincre son bégaiement. Donc, à travers, par exemple, l'éloquence, les débats éloquence, il a pu soigner une pathologie qu'il avait. Et on est là dans ce que j'appelle l'oral thérapie, qui n'a rien à voir avec l'oral thérapie qui est liée aux enfants, aux maladies des enfants.
Absolument. Et donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens qui bégayent, par exemple, ou qui ont des tics, et lorsqu'ils sont qui se mettent en situation d'acteur, finalement, ils oublient tout ça, et ils rentrent dans le personnage, et donc on se retrouve avec cette même démarche. Quand tu disais, il faut combien de temps si on est un peu, on se dit, allez, je suis nul en éloquence, et j'aimerais bien être quelqu'un de bien, il faut combien de temps?
Alors, le temps varie, tout comme j'estime qu'il n'y a pas de formation globalisée. Il faut adapter chaque formation à chaque individu, à chaque organisation selon leurs objectifs précis. Il faut d'abord faire un diagnostic. Lorsque nous faisons des formations, par exemple, où il faut faire un diagnostic de la personne que nous devons former ou la personne qui doit apprendre. Les difficultés ne sont pas les mêmes. On peut avoir des personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont la peur de prendre la parole en public. Une fois cette peur-là vaincue, elle s'exprime davantage mieux qu'avant. Il y a des personnes qui s'expriment très bien en public, mais qui ont des difficultés, par exemple, à agencer, à utiliser des connecteurs logiques, et bien évidemment. Et le temps, c'est la problématique, ou tout au moins la difficulté trouvée conditionne le temps qu'on peut attribuer à une personne pour développer ses capacités en prise de parole en public. Et donc, donner un temps de manière. Donner un temps comme si c'était comment dire, un format spécifique me poserait un problème. Selon par expérience, selon les profils que l'on a, on peut avoir un temps différent. Je prends un cas simple. Pour une personne qui s'exprime bien, qui parle bien, qui s'exprime bien dans une langue, qui a des arguments précis, qui sait structurer son argumentaire, lorsqu'elle n'a que la peur à prendre la parole en public, 5 à 6 heures d'exercice peuvent permettre de vaincre cette peur en intégrant bien évidemment les prises de parole en public devant un public assez vaste, une, deux, trois fois, vous voyez. Il peut juste décider de prendre la parole en public en classe, ensuite peut-être dans un amphi et au-delà lors d'une réunion. Au fur et à mesure, cette prise de parole vont transformer cette personne. Et là, le temps peut être, on ne peut pas aussi le mesurer. Donc, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre de manière claire. Il faut tel un nombre de temps car selon les besoins, on adapte la formation et le temps avec.
Parce que souvent les managers se disent, j'ai une grosse conférence à faire, j'aimerais être impactant, et puis finalement, j'ai besoin de coaching, d'accompagnement, etc. Souvent, c'est parce qu'il y a une motivation en amont. Donc, c'est ce qu'on entend souvent dans les entreprises aussi, hein, donc sur les grands dirigeants, qui sont parfois, pas tous, très éloquents, hein.
Oui, bien évidemment, c'est lié au fait que très souvent, dans nos formations aussi, cela n'a pas été pris en compte, la prise de parole en public. Et c'est lorsque les managers ou les chefs d'entreprise, ils évoluent, qu'ils se rendent compte qu'il y a des situations dans lesquelles ils doivent s'exprimer. Et lorsqu'ils se rendent compte, ils peuvent solliciter effectivement les services d'un coach en prise de parole en public. Et le coach, comme je l'ai dit tantôt, doit toujours poser un diagnostic. En ce qui nous concerne, nous posons un diagnostic. Si le manager, en principe, maîtrise bien son sujet, ce qui est aussi une autre chose, il
Bien
peut
sûr.
bien le maîtriser, mais prenons le cas d'un manager qui veut faire un pitch, environ 3 minutes, qui doit présenter un projet spécifique. Il y en a qui viennent à la 3e minute, ils n'ont pas encore dit le plus important, par exemple. Mais parce qu'ils n'ont pas eu ces préparations, ces formations préparatoires qui auraient permis de non seulement de classifier les arguments, mais surtout de dire l'essentiel. Donc, voyez-vous, dans une situation urgente, on peut aussi adapter des méthodes urgentes. Mais de manière globale, le conseil serait vraiment de se former afin de pouvoir avoir cette capacité d'improviser. Et lorsqu'on prend la parole en public, comme je le dis très souvent, même l'improvisation en prise de parole en public se prépare.
Absolument, tout à fait. Donc, on voit bien sur les stand-up apprenants, des choses comme ça, l'improvisation, c'est beaucoup de travail en amont. Absolument.
Bien évidemment.
Alors, la rhétorique, justement, quand on a parlé de l'éloquence, la rhétorique, une formation en rhétorique, ça traite quoi comme sujet?
Alors, une formation rhétorique, ça peut traiter de plusieurs sujets. Non seulement il y a ce qu'on appelle des modules de formation qui permettent d'agencer un certain nombre d'outils, ce que nous appelons le panier de l'orateur. On peut avoir par exemple comme sujet les typologies d'arguments et les stratégies argumentatives. On peut avoir la gestion de la voix, la gestuelle par exemple. Nous pouvons également avoir ce que nous appelons le débat éloquence, qui est une approche qui permet de structurer la dialectique au sens, aussi bien au sens classique qu'au sens moderne du terme. Et selon les profils que nous avons, selon les entreprises, on fait ce qu'on appelle les prises de parole en public adaptées. Et selon que l'on soit, par exemple, en face des acteurs, on peut adapter une prise de parole adaptée au théâtre. Selon qu'on soit en face d'un manager, on peut adapter une prise de parole en public adaptée au manager, ou d'un leader, on peut adapter une prise de parole adaptée au leader. Et là, des modules supplémentaires peuvent être introduits dans la formation. Donc, globalement, il s'agit de tous ces éléments-là et franchement, les formations, on les adapte. Il y a une dizaine de modules. Je suis responsable, par exemple, du réseau international pour la promotion des arts oratoires, où nous proposons 10 modules basiques pour tout le monde et ensuite environ 5 modules pour les entreprises qu'on a dû à identifier selon les profils. Mais jusque-là, on est certain qu'on n'a pas toutes les données, dans la mesure où en face d'une entreprise qui est nouvelle ou en face d'un client ou d'une organisation nouvelle, on peut adapter un module particulier. Je vais prendre un cas simple. Nous avons eu à collaborer avec une entreprise qui fait des relogements. Et pour les relogements, il y a d'abord un travail à faire, celui de faire des enquêtes auprès des locataires ou tout au moins des résidents. Et pour cela, on a dû créer un module adapté à cette enquête, compte tenu du fait que c'est des personnes, par exemple, qui laissent leur logement peut-être avec regret et qui sont obligées de partir. Vous voyez que le discours ne peut pas être le même. On doit adapter des modules liés à l'entretien. Non pas un entretien d'embauche, mais un entretien lié au relogement, par exemple.
Absolument. Donc c'est très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est la notion de préparation. Et de la préparation, on va revenir sur la préparation de l'argumentaire, les punchlines, etc. Mais les stratégies, mais ça veut dire aussi la préparation physique. Et donc pour un
Effectivement.
formateur, c'est très important parce que les formateurs, souvent, ben, ils se lancent, ils poussent leur voix. Et donc souvent, ben, il y a l'extinction aussi qui vient. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement, à poser sa voix, j'imagine?
Là, vous parlez du formateur, n'est-ce
Oui, absolument.
pas? Oui, le formateur, déjà, vous savez, l'un des éléments qui peut permettre à un formateur de réussir sa formation, c'est de connaître le contenu, d'avoir une certaine expérience dans le domaine. Et du coup, il faut tenir compte, comme toute prise de parole en public, même un formateur, ça fait partie de la prise de parole en public. Et du moment où la prise de parole en public commence, lorsque la vie en public commence, et un
Oui,
orateur
mais
doit déjà.
justement, quand on est avant le démarrage, c'est comment est-ce qu'il se prépare? Donc sur la voix, sur le stress, quels sont les trucs et astuces que tu donnerais avant qu'il démarre, surtout s'il est débutant?
Oui. Alors, et ça varie aussi. Il y en a, par exemple, il y a des personnes qui, juste avant le début, vont appeler une personne qui aime bien, je prends pour le stress, par exemple, le cas du stress, par exemple. Oui, une personne qui aime pour avoir une confiance. Il y en a qui vont boire un peu d'eau. Il y en a qui, bien avant, vont faire un peu d'exercice physique. Et ça varie. Et effectivement, ça dépend des lobbies de tout un chacun. Il y en a qui, il suffit qu'elles prennent un recul avant la formation. Par exemple, je prends un cas simple. Avant de vous rencontrer, je prends quelques minutes avant, je fais des matchs, tout. Je me déteste totalement de ce que je vais dire. J'essaye de laisser mon esprit un peu ouvert pour absorber toute autre chose qui n'a rien à voir avec le discours préparé ou tout au moins ce que j'avais préparé de dire avant. Et lorsque je reviens, ben, ça devient automatique. Et lorsqu'on le fait plusieurs fois, on conditionne notre cerveau à fonctionner ainsi. En ce qui concerne, par exemple, la voix, il y en a aussi qui vont boire, si je ne l'ai pas dit, de l'eau, justement, et essayer de faire des exercices de voix, et essayer de faire des exercices liés à, je prends un exercice qui est très souvent régulier en ce qui concerne la voix, par exemple, le fait de mettre un stylo dans sa bouche, ou ce qu'on appelle la pomme de Démosthène, parce que Démosthène, qui est l'un des orateurs antiques, utilisait ce qu'on appelle la pomme de Démosthène pour travailler la voix. Il y a des personnes qui, bien évidemment, s'ils n'ont pas cette pomme-là, ils peuvent utiliser un
Alors,
stylo.
comment est-ce qu'on fait avec la pomme? On la met dans la bouche, c'est
Ah
ça?
oui, on les met entre les dents et on les tient fortement avec nos dents et on essaie par exemple de répéter une phrase, de répéter un discours et on essaie. Puisque lorsqu'on le fait, on a besoin par exemple d'épuiser une force au niveau de l'abdomen pour pouvoir avoir une voix audible. Et lorsqu'on le fait aussi, on permet de préparer nos cordes vocales à bien articuler lorsqu'on va prendre la parole. Donc, encore une fois de plus, elle s'adapte à l'orateur et au formateur. Et chaque
Bien sûr.
formateur peut avoir des éléments, comment, des astuces particulières. Il y en a tellement, mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on sache d'abord quel est le profil de la personne qu'on a, quel est l'orateur. Parce que si vous savez, il y a trois dimensions lorsqu'on prend la parole en public, l'éthos, le pathos et le logos. Et l'éthos, bien évidemment, c'est l'orateur, celui qui parle. Il doit se connaître soi-même avant de pouvoir impacter à travers son pathos, l'audience et le logos, le contenu de son discours.
Très très bien, donc le triangle d'Aristote, comme on dit.
Effectivement.
Et donc, quand on est dans cette démarche-là, comment est-ce qu'on construit un argumentaire? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on organise ce qu'on doit dire? C'est-à-dire, on
Alors,
parle il y en a qui sont bons orateurs en disant il y a des punchlines, il y a des. Comment est-ce qu'on s'y prend?
ça me permet, vous avez convoqué Aristote tout à l'heure. Et peut-être on va davantage à convoquer ces travaux qui ont été faits. Vous savez, la rhétorique, ou tout au moins, on distingue la préparation, se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord, si on prend l'inventio, parce que comment prendre un argument? On recherche des arguments. Là, c'est lorsqu'on a déjà un sujet, on recherche des arguments. Après, le dispositio qui permet de comment on l'agence, les stratégies argumentatives. Est-ce qu'on va adopter une stratégie à contrario, une stratégie par analogie? Est-ce qu'on va adopter une prolepse et tout? La réfutation, on doit développer toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons aussi, comment on dit, la mémoria, qui permet de savoir des techniques pour mémoriser déjà notre discours. On a l'artio, qui est l'action en elle-même, sans oublier l'élocutio, qui est maintenant l'éloquence, le style. Est-ce qu'on va utiliser, par exemple, comment dire, des figures rhétoriques? Est-ce qu'on va utiliser je sais pas moi, des chiasmes? Est-ce qu'on va utiliser des figures liées plutôt au son, c'est-à-dire les jeux de son, l'assonance et l'allitération? Est-ce que toutes ces questions-là, on doit les poser en amont? Ça, c'est un côté de la préparation. Un autre, c'est si on veut structurer son discours en mettant l'exode, c'est-à-dire comment on l'introduit, on doit penser à comment l'introduire. Est-ce qu'on l'introduit à travers une phrase forte, à travers un proverbe, à travers une citation? Ensuite, on présente le sujet, il y a la validation du sujet, il y a la narration. Est-ce qu'on va opter par un storytelling où on va développer une histoire pour pouvoir captiver davantage? Et lorsqu'on termine et on est là dans la péroraison, comment nous résumons nos propos et comment on laisse le public sur sa faim avec peut-être une phrase phare qui est aujourd'hui en plus appelée punchline. Donc, et tout ça, c'est des éléments qui entrent dans la préparation et c'est des éléments qui nous permettent de structurer davantage notre discours. Aucune phrase ne doit être laissée au hasard. Aucun extrait ne doit être laissé au hasard. Tout doit être passé au crible fin de la pensée de l'orateur avant de la mise en avant la scénarisation, tout au moins la prise des paroles.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils prennent la parole, ont envie de tout dire et de trop dire, et finalement, ils sont imbuvables. Par exemple, il y a des gens qui donnent des chiffres et des listes de chiffres, ce qui rendent, en termes d'impact, c'est déplorable parce que j'en décroche. Donc, quelles sont les règles pour justement être entendable?
La première règle, d'abord, c'est de... Ça me permet de venir sur une méthode que nous appelons, qui est très très utilisée en communication, 4W plus H. What, ce dont on parle, where, où on va parler, où, celui qui parle et à qui on parle, when, quand est-ce qu'on doit parler, et how, le comment. Je préfère m'arrêter sur le comment et le where. Lorsqu'on dit le comment et où, ça permet de circonscrire déjà le temps qui est très important. Voyez-vous, si on vous dit vous avez 5 minutes pour vous exprimer, ne pensez pas qu'en 5 minutes, vous allez aligner des chiffres sur un sujet particulier ou enlever des citations sur un sujet particulier. En 5 minutes, par exemple, dans les concours d'éloquence qui vont aller de 3 minutes à 10, à 7 minutes, très souvent, et généralement 5 minutes, c'est la moyenne. Si vous voulez construire un discours, par exemple, et que vous utilisez assez d'outils, si c'est un sujet qui vous invite à parler des chiffres, ne parlez pas des chiffres pendant plus d'une minute, par exemple. Et c'est parce que, à part, comment dire, que lorsque vous répétez la même chose plusieurs fois, l'auditoire s'endort et s'enlace. C'est la raison pour laquelle je crois que la musique, d'aucuns utilisent la musique pour s'endormir parce que c'est souvent la musique qu'ils connaissent déjà. À force d'écouter la même chose, on finit par ne plus s'y intéresser et du coup, le sommeil s'invite très facilement. Donc, le temps nous permet de mieux organiser. Si j'ai trois arguments à présenter, si je dois vendre un projet, par exemple, de construction d'un bâtiment sur un site sportif, et que je dois donner des arguments pour convaincre, par exemple, les populations qu'on doit désormais utiliser ici pour un bâtiment. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est l'argument, par exemple, s'il y a un manque de logements, est-ce qu'il doit justifier si c'est le plus important, si c'est des logements sociaux? S'il s'agit plutôt, par exemple, l'endroit n'est plus mieux à même d'acquérir les infrastructures sportives, est-ce que c'est plus l'argument le plus important que je dois mettre en exergue? Si la structure sportive amène plutôt du désordre et crée du bruit dans le quartier, est-ce que c'est l'argument le plus important que je dois mettre? Je suis là, insérer, on peut aller dessus les raisons pour lesquelles on veut construire ce site et on doit choisir le plus important et c'est celui-là qui doit être, c'est ceux-là qui doivent être mis en avant compte tenu du temps que l'on a. Par contre, si nous avons 1 heure de temps, on peut aussi développer le discours en 1 heure de temps, voyez-vous? Donc cela varie. Je vais pousser chuter, prendre un autre cas, celui, vous savez, une thèse de doctorat, ça s'écrit en minimum 3 ans et ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et on a développé un concours qu'on appelle ma thèse en 180 secondes et vous avez 3 minutes pour présenter votre thèse. Au départ, lorsqu'on forme des personnes, elles vous disent, non, est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que même dans une soutenance, ça peut prendre, on vous donne 20 à 30 minutes pour votre discours, mais là, on vous donne 3 minutes. Mais les gens parviennent à le faire. Pourquoi? Parce que il y a ce que j'appelle la, comment dire, le choix et la classification des arguments selon leur importance et selon le public auquel on s'adresse. Donc, voilà, il ne s'agit pas de tout dire du moment. Lorsque vous dites tout, à un moment donné, vous n'êtes même plus. Lorsque vous entrez trop dans le détail, comme dit le diable se trouve dans les détails, vous pouvez vous perdre et vous pouvez non aussi également distraire l'auditoire ou l'audience qui vous écoute.
Exactement. Et souvent sur les thèses, on se retrouve avec des gens qui connaissent leur sujet, mais qui ne savent pas trop dire à quoi ça sert. Et donc là, ils sont obligés de faire cet effort de pédagogie, comme on dit, dessus. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, quand on parle tout seul, donc on trouve sa rhétorique, son argumentaire, etc. Comment est-ce qu'on favorise l'engagement? On veut que le groupe il soit interactif.
Alors, là, nous revenons peut-être à Aristote avec ses degrés d'éloquence. Il distingue le premier degré qui est un degré où on veut seulement plaire, c'est l'orateur, il est un peu omnibulé par sa personne, il veut plaire sans nécessairement penser aux autres. Et le deuxième degré, c'est un degré dans lequel on essaie d'instruire et de convaincre. Et là, nous sommes dans le troisième degré, et comment intégrer le public? Alors, et comment engager le public? Déjà, pour engager le public, il faudrait que de par votre approche dès le départ, votre première prise de parole en public, que ce public soit engagé. Très souvent, nous voyons des gens lorsqu'elles prennent la parole en public, je ne dis pas, il ne faut pas dire bonjour. Très souvent, dans certains contextes, ils n'ont pas de temps, ils vont dire bonjour. Et les civilités d'usage qui ne sont pas en elles mauvaises, mais qui très souvent sont déjà connues du public. Et pourtant, une phrase captivante pourrait vous permettre d'engager directement le public. Une autre chose, c'est de ne pas avoir un discours monotone. Du moment où votre discours est monotone, vous n'engagez plus le public. Et il faut qu'il soit en dents de scie, qu'il évolue. Et selon que les intonations soient bien incarnées, que les interrogations soient bien incarnées, et surtout qu'il y ait une sorte de dosage clair et net avec l'humour, le sérieux et bien d'autres. Si vous venez faire tout simplement de l'humour, peut-être on est dans un concours d'humour, ça va aller, mais si vous vous êtes trompé de public, on risque de vous dire, mais monsieur, vous êtes un clown si vous parlez d'une entreprise. Et pourtant, un peu d'humour, ça ne ferait de mal à personne, mais en même temps, incarner le sérieux lorsqu'il le faut et selon ce que vous dites. Là, c'est très important. Comment aussi accrocher le public? Vous ne perdez rien en souvent en relançant le public. En Afrique, par exemple, il existe qui est un continent où l'oralité est très pratiquée. Je ne dis pas que c'est le continent qui utilise le plus l'oralité, mais c'est un continent dont la culture orale est encore très présente. Et vous verrez que les personnes ont des capacités mnémoniques très denses. Vous aurez des conteurs, par exemple, qui peuvent tenir un public pendant 10-15 heures. Et lorsque vous étudiez ces épopées, je prends le cas d'une veste qui est pratiquée dans un pays, dans quatre pays d'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Congo-Brazza. Et les conteurs du veste ou les vetteurs, comme on les appelle, lorsque vous écoutez les épopées, le public en fait partie. Très souvent, ils interpellent le public, soit par des chants, soit ils laissent le public construire avec eux le discours supposé terminé. C'est-à-dire, ils vont interroger, par exemple, sur une question et laisser le public répondre, commencer une phrase et laisser le public terminer. Nous avons aussi les questions rhétoriques qui relancent le public, ou les questions tout simplement. Donc, c'est selon le contexte dans lequel on se trouve, selon le public que l'on a en face de soi, selon l'environnement que nous avons étudié, que l'on peut davantage savoir comment intéresser le public. On est d'abord tous d'accord que le sujet doit déjà intéresser le public pour qu'il vous écoute. Et ensuite, vous devez être audible. La prestance, elle est importante. Je veux aussi prendre un cas simple. Une fois, nous étions en Égypte dans le cadre d'une cérémonie officielle qui avait vu l'intervention de la directrice de l'OIF à l'époque, qui n'est pas
L'Organisation internationale de la
de la
francophonie.
francophonie, qui n'est pas musulmane de base, mais qui en Égypte, dans un pays arabe ou musulman, a dû se vêtir par exemple en voile d'argent pour montrer qu'elle adhère à la culture, tout au moins la culture locale. Voyez-vous, c'est un élément aussi qui n'est pas à négliger, qui permet déjà d'attirer l'attention. Le public se sent un peu d'une certaine façon intéressé par le profil de la personne qui se présente devant eux, devant eux, ou devant lui, le public, bien évidemment.
Donc effectivement, et l'habillement, la tenue est importante par rapport au discours qu'on tient.
Bien évidemment.
C'est-à-dire, si on veut être sérieux, ben il faut avoir le physique de quelqu'un de sérieux.
Oui, et les études sont faites dessus. Je n'ai pas les noms des auteurs américains qui ont travaillé là-dessus, qui disent d'ailleurs que plus de 70% de la communication est non verbale. Lorsqu'on dit le non verbal, la gestuelle, la prestance, l'apparence physique y est pour beaucoup. Qu'on le veuille ou pas, cela en fait partie. Et donc, il faut en tenir compte, bien évidemment.
Exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a parlé des arts oratoires qui existent depuis l'Antiquité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui change vraiment dans les arts oratoires? On dit souvent que c'est plus frontal, il y a plus de polarisation, il y a plus de violence dans le débat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Ah, on n'entend pas, ton micro est coupé. Voilà, très
Ah,
bien.
disons. S'il y a plus de violence, c'est parce que pendant longtemps, on a arrêté d'enseigner l'art oratoire. Comme le disait Madame Michèle Coquet, chercheuse au CNRS, elle me disait, Narcisse, j'ai l'impression qu'en France, par exemple, les gens ne savent plus débattre. Quand je regarde le Parlement, les gens ne savent plus débattre. C'est son point de vue, je préfère citer, parce que je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit.
C'est
Et
bien.
du coup, c'est lié au fait qu'on n'a plus travaillé sur comment s'exprimer. Cela manque beaucoup. Les gens confondent argument à persuasion. Les gens confondent insulte. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un argument. Je veux prendre un cas simple et un exercice que nous mettons de plus en plus en exergue pour résoudre ce problème. Je vais prendre, ça s'appelle le débat. Le débat, on dit debate, en anglais, on dit le débat de manière globale, mais nous avons théorisé comme débat éloquence. C'est un exercice qui permet de mettre des équipes en opposition sur des sujets précis. Et l'une des nuances, c'est de faire jouer des rôles à des jeunes ou à des personnes âgées, parce qu'on l'utilise dans les formations, sur des postures qu'ils ne partagent pas nécessairement dans la vie réelle. Je peux vous rassurer par expérience, cher Stéphane, que lorsque les jeunes ont pu jouer des rôles qu'ils ne partagent pas dans la vie réelle, ils comprennent facilement le discours contraire. Lorsqu'une personne pense différemment d'eux, ils comprennent que cette personne n'est pas contre eux, mais qu'elle pense de manière d'une autre façon. Cela réduit de manière drastique les conflits. Les jeunes passent le temps plus à débattre avec des arguments qu'avec des injures, des insultes ou d'autres raccourcis qui peuvent exister. Donc, c'est lié à la formation. Je pense que le gouvernement français s'en est d'ailleurs rendu compte. Depuis 2019, on a réintroduit le grand oral au baccalauréat et de plus en plus, Nous sommes sollicités pour des formations, non seulement des formations dédiées directement aux professeurs. Par exemple, nous avons commis un ouvrage en 2022 intitulé La pédagogie à travers le débat éloquence, un guide pour les formateurs, pour comment les enseignants ou les formateurs peuvent utiliser le débat pour enseigner des matières ou enseigner les différentes matières, ou pour les enseignants pour enseigner le français, l'histoire, et bien évidemment, je vous assure, c'est depuis, les résultats sont probants. Et voilà, c'est même d'ailleurs dans ce cadre aussi qu'on a eu à publier des articles avec Denis qui nous a recommandé dans le cadre de cet exercice. Donc, il faut former les personnes à s'exprimer. Si on ne les forme pas, elles apprennent sur le tas, elles apprennent sur ce qu'elles voient et souvent, ce n'est pas de bons exemples.
Oui.
Lorsqu'on regarde des débats à la télé, on voit comment elles se terminent, comment elles. Si on doit apprendre cette façon de débattre, on finit par croire que c'est des façons, comment dire, des modèles de débat, et pourtant non. Pourtant non. Lorsqu'on apprend à débattre, on se rend compte que la réalité est tout autre.
Alors justement, il y a des gens qui ont appris, qui ont bien appris, qui ont fait des études et qui finalement sont devenus insipides, ce qu'on appelle le politiquement correct. Ils parlent en disant, en amenant du verbe, en parlant avec autorité, mais finalement, c'est pas, comme on dit, performatif. C'est-à-dire qu'à la fin, on utilise le verbe pour le verbe. Et donc, ça décrédibilise la parole aussi. Et aujourd'hui, c'est une grosse tendance qu'on a sur les gens qui n'ont rien à dire, mais qui savent qu'il faut dire quelque chose. Ils occupent le terrain pour faire style.
Oui, cela peut davantage se passer si on est dans le cadre, vous savez, on distinguait trois types de trois genres de rhétorique. Le genre délibératif, et ça, ils sont généralement dans ce genre-là très politique. Le genre épidictique, on est dans le blâme et dans le loge. Le genre judiciaire. Et selon le genre, les personnes peuvent incarner en connaissance des causes. Vous savez, il y a eu tout un courant qu'on appelait le sophisme, les sophistes à l'époque qui étaient convaincre à tout prix, et Platon, il a bien combattu, mais bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce genre d'orateur. Mais si l'audience est aussi formée, si l'audience est préparée à cela, elle va détecter ces éléments de langage, elle va détecter ce paraître, parce qu'en fait, c'est du paraître, et voilà. Lorsque nous parlons, par exemple, des concours d'éloquence que nous avons cités tantôt, l'une des limites pourraient être cela. Oui, effectivement, les gens peuvent facilement parler pour ne rien dire et rester plus sur le style, la forme, et pourtant le contenu, il n'est pas aussi intéressant que ça, même si c'est aussi valorisé. Mais je voudrais juste mettre en exergue que du moment où, si on ne veut que du style, on risque de tomber sur ce genre de personnes qui alignent des figures de style, qui alignent un jeu de mots sans nécessairement y apporter un contenu fondamental, sujet à débattre.
J'aime beaucoup cette idée-là de dire que quand on a un discours qui n'a pas de contenu mais qui occupe le terrain, finalement, si on a formé les gens, l'auditoire, eh bien l'auditoire est capable d'aller au-delà de ses apparences pour poser les vraies questions et on rentre dans un vrai débat. Ce qui, dans l'entreprise, souvent, avec le politiquement correct, parce que les gens n'ont pas de latitude, de degré de liberté, ou simplement ils ne savent pas. Ils savent pas quoi dire. Dans ces cas, les gens ont cette tendance-là, alors que justement, bah, c'est l'occasion de monter en maturité grâce aux arts oratoires et sa diffusion, justement, ça dans l'entreprise. Alors, puisqu'on avance dans l'émission, dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler les arts oratoires dans l'entreprise?
Alors, permettez que je commence par dire que l'entreprise, très souvent, on observe les projets de création d'entreprise ou de développement des entreprises qui mettent juste un accent communication et qui ne prend pas en compte. Comment on peut les travailler dans l'entreprise? Il faut déjà savoir quels sont les différents niveaux où on fait appel à l'oratoire dans l'entreprise. Dès la création, dès l'idée, lorsque vous avez une idée d'entreprise dès le départ, vous devez déjà être capable de mieux vous exprimer. De mieux vous exprimer.
Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec, alors les dirigeants bien sûr, quand on crée une start-up, bah, on a de l'énergie parce qu'on a peur aussi, donc on se lance, c'est une vraie aventure. Souvent on est assez charismatique, donc on développe de l'émotion, donc les gens adhèrent plus facilement au projet, mais quand on est une vieille entreprise qui est là depuis 10 ans, 20 ans et que les discours sont toujours les mêmes, comment est-ce qu'on fait pour bah, réintroduire les arts oratoires alors que ce n'est pas la
Alors,
culture?
comment lorsqu'on a une vieille entreprise, comment réintroduire les arts oratoires? Alors, Il est important de j'étais dans une lancée de présenter ces différents niveaux parce que selon les niveaux, on peut les réadapter.
Très bien,
Vous
ouais.
voyez, lorsqu'on doit vendre son idée de projet à des amis et tout, souvent on exprime mal, souvent les gens ne sont pas d'accord avec vous parce que peut-être vous êtes mal exprimé. Il faut déjà savoir comment présenter ce projet. Lorsque vous êtes devant une personne qui doit vous financer, vous devez aussi savoir quoi dire. Mais lorsqu'on est dans l'entreprise, comme vous avez dit tantôt, on a des réunions, des conférences, on a des rapports, des réunions et tout, quelque chose, des éléments assez basiques que l'on doit mettre en exergue et qui très souvent sont le quotidien, on répète les mêmes choses, voire on discute bien évidemment comme vous le dites, mais il y a aussi des conflits. On ne saurait les résoudre de la même façon. C'est pour ça qu'il y a une méthode que nous utilisons de plus en plus qui est d'origine africaine qu'on appelle la palabre. La méthode à palabres, c'est une méthode qui est liée à la résolution des conflits en Afrique. Des chercheurs comme Emmanuel Damblon prédisent qu'il en existait deux types. La palabre inerte, qui est liée au discours, à un discours simple, comme par exemple valoriser une personne, présenter quelque chose d'assez normal. Et le discours agonistique, pardon, qui permet par exemple de résoudre des problèmes. Il y a d'autres chercheurs comme André Yinda et Noël Delbracine qui disent plutôt qu'il existait trois types de palabres, la discussion formatrice, la discussion contractuelle et la discussion juridictionnelle. Ces trois éléments ont la particularité de s'adapter au contexte. Lorsqu'on a une entreprise qui a existé longtemps, on a d'abord cette discussion formatrice qui doit exister, la remise en question qui doit être régulière. Et il faut toujours, à un moment donné, s'arrêter, réunir les membres de son entreprise, réunir ses collaborateurs et mettre cette discussion sur la table. Préparer un carnet des champs, un carnet, ou tout au moins un carnaval de cette discussion. Comment elle doit commencer? Quelles sont nos personnes qui prennent part, qui doit prendre part, qui ne doit pas en prendre? Est-ce que peut-être le manager ne doit même pas s'effacer et laisser les collaborateurs produit un document qu'il doit utiliser après dans les discussions, par exemple, contractuelles, où nous on voit, parce que lorsqu'il y a des discussions, effectivement, émerge de cette discussion, des décisions à prendre. Et très souvent, il faut revoir des contrats, l'approche, la manière d'aborder de ses collaborateurs. Et là, on intervient avec la discussion contractuelle. On peut même revoir. Et qui est toujours lié maintenant aux entretiens, comment on aborde son collaborateur. Là, peut-être on rentre dans le leadership ou autre chose, nous n'allons pas rentrer dedans. Mais surtout, lorsqu'on a fait cet état des choses dans l'entreprise à un moment donné, on pourrait aller jusqu'aux discussions juridictionnelles dans la mesure où on ne s'entend pas avec ses collaborateurs. Donc, il faut déjà faire cet état des lieux. C'est la première des choses. Et surtout, et cet état des lieux permet de donner la parole à tout le monde. Et si on veut vraiment parler d'oratoire, de mettre un accent particulier sur l'oratoire et selon l'entreprise, quels sont les apports ou quels sont les bénéfices que l'oratoire pourrait apporter à l'entreprise spécifique. Parce que une personne qui est derrière son ordinateur, qui ne fait que des rapports et qui ne prend jamais la parole en public, elle a peu d'occasion peut-être d'aller présenter ses rapports. S'il y a une autre personne qui cherche de ça, c'est cette personne qui est mieux à même d'actualiser et qui dit actualiser sa prise de parole en public, tout comme en entreprise, c'est s'arrimer à la nouvelle donne des outils de la communication qui évoluent. En fait, réintroduire l'oratoire dans l'entreprise, c'est une nécessité absolue. D'autant plus qu'on est dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est l'oratoire qui va permettre au manager de savoir si, par exemple, son collaborateur a présenté un travail qu'il a réalisé lui-même, c'est en discutant avec lui, c'est en l'écoutant, en voyant sa capacité de répondre et de répondre de manière sincère qui vous permettra de savoir si ça vient de cette personne ou pas. En tant que, lorsque vous voulez, comment dire, enregistrer, faire des entretiens avec des nouvelles recrues, vous avez reçu des CV qui ont peut-être été générés par une intelligence artificielle. C'est l'entretien, comment vous l'abordez, comment vous gérez cet entretien qui vous permet peut-être de voir que si vous recrutez la bonne personne et non pas une personne qui a utilisé des fausses pièces ou qui a utilisé qui a mis des éléments mensongers dans son discours. Donc, pour me résumer, l'adaptation de l'oratoire dans une entreprise ou la réintroduction, elle est, comment dire, elle est même liée au suivi de l'entreprise à nos jours, parce que les gens sont au cœur de plus en plus des relations des hommes après des années de distance créée non seulement par l'arrivée des technologies, mais le développement de l'écrit et tout ce qui va avec. Et donc, voilà ce que je peux me dire de manière succincte.
Et la montée en puissance aussi de l'organisation scientifique du travail, qui justement disait, nous, on veut des choses scientifiques et pas d'émotions, pas de... Et donc, tout ce qui était les arts oratoires était sorti, parce que justement, on disait, c'est pas scientifique au sens premier du terme, de l'époque, bien évidemment, c'est pas rationnel, c'est pas de la raison, puisqu'il y a beaucoup d'une part d'émotion, et donc ça a été sorti de l'entreprise, et aujourd'hui ça revient parce que finalement, tout ce qu'on a est désincarné. J'aime beaucoup dans ce que tu disais quand tu parlais de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un bon exemple. Si ChatGPT fait énormément de verbes, il fait des phrases qui sont bien dites, enfin voilà, mais à la fin on se dit, ok, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a dit? Et finalement, on dit, on peut mettre 10 lignes, 20 lignes, 100 pages, etc. Et à la fin, on se dit, mais c'est du verbe simplement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on réincarne et on réarticule un langage qu'aujourd'hui, l'homme peut. C'est la spécificité de l'homme par rapport à l'IA, non?
Oui, bien évidemment, parce que vous savez, je ne suis pas un expert, un ingénieur, même si j'ai, comment dire, j'ai eu à intervenir ou à donner mon avis sur les certaines intelligences artificielles qui étaient liées aux lettres, aux sciences humaines, mais je ne suis pas un ingénieur dès la base de la conception. Et vous aurez remarqué que l'intelligence artificielle s'inscrit plus des documents, mais la plupart des temps, c'est des documents et se nourrit la plupart des temps de ces documents-là. Et donc, du coup, le discours oral est différent du discours écrit. Et on ne parle pas comme on écrit. On n'écrit
Exactement.
pas comme on parle. C'est des codes de langage totalement différents. Et lorsque on met l'intelligence, même s'il y a des robots, hein, les robots qui s'expriment de plus en plus, et les robots qui prennent la parole,
Bien
mais
sûr.
ils ne pourront jamais aussi mettre au devant de la scène les émotions. Vous avez dit on a reculé parce qu'on disait ce n'était pas de la raison, ce n'était pas, c'était des émotions. Mais d'une certaine façon, l'homme et les relations humaines sont basées sur ses émotions. Et c'est la gestion de ces émotions-là qui devrait être au cœur des échanges, parce qu'elles sont diverses et elles peuvent s'adapter selon les contextes et selon les sujets des uns et des autres. Donc, il est important davantage d'humaniser la prise de parole en public que de la robotiser, parce que, sauf si on tend plus vers un monde de robots qui comme vous savez, il n'y a aucun élément, il n'y a pas de statu quo dans la nature. C'est à chaque fois des renouvellements. J'ai dit d'ailleurs que la mode n'est qu'une actualisation de quelque chose qui existait bien avant. Si on a relégué au second plan les arts oratoires pour des raisons que vous venez de citer, mais aujourd'hui, avec le développement technologique, ce que Antonio Fernandez Vicente appelle la parole marchandise ou l'oralité numérique, on est de retour dans les arts oratoires. Et on ne peut pas évacuer l'aspect persuasion et l'aspect argument. Parce qu'on prend la parole, non seulement on peut prendre la parole pour convaincre, mais également pour persuader. On ne persuade qu'avec des émotions. Et tout dépend encore de la cible, tout dépend du public qui nous écoute et de nos objectifs.
Exactement. Donc j'aime beaucoup, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, j'aime beaucoup tout ce que tu présentes, et j'aime aussi beaucoup le regard qui est interculturel que tu portes. Ça permet, moi j'aime beaucoup l'interculturel, c'est que ça permet de mieux se réinterroger soi-même en écoutant les autres qui nous sont étrangers au sens premier du terme, et ce qui nous permet justement d'apprendre à mieux nous connaître. Donc merci d'avoir nous avoir apporté cet effet miroir sur chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on retrouve quand on va dans d'autres pays. Donc bien sûr, les arts oratoires s'adaptent à chaque culture de pays. Mais c'est passionnant, et dans les entreprises, c'est quelque chose d'essentiel, parce que finalement, c'est pour remettre de l'humain dans l'entreprise. Alors tous ceux qui apprécient tout ce que tu as dit et tout ce que tu as présenté, c'était succinct, mais ça faisait quand même presque 50 minutes. Si on veut te voir, comment est-ce qu'on peut faire? Te rencontrer, échanger avec toi, quel est ton média, LinkedIn?
Alors, c'est Fomé Kondieu Gounassis, c'est mon nom sur LinkedIn et les personnes peuvent me retrouver au Narcisse Fomé Kondieu sur Facebook, Narcisse Narcisse et Fomé Kondieu mon nom. On peut me retrouver sur Facebook ou on peut écrire tout simplement à la page de la Maison de l'Orateur, qui est une structure que j'ai cofondée et donc
Très
qui
bien.
fait la promotion de tout ce qui est service en prise de parole en public et adapté à des contextes différents. Et voilà, donc par ce moyen-là, on peut me
Et la
contacter. Tout
maison de
comme on peut me
l'orateur,
contacter par vous, bien évidemment.
bien sûr, la maison de l'orateur, ça existe depuis combien de temps?
À la maison de l'orateur a été créée, a été d'abord, nous l'avons pensé en 2021 parce que c'était
D'accord.
suite
Ouais.
à un programme que nous avons suivi dans le cadre du Master Erasmus d'ETHMA+. Et à la sortie que nous avons rédigé un travail sur jeu oratoire en Afrique et promotion du patrimoine culturel immatériel. Et c'est à la suite que nous avons jugé nécessaire de transformer une structure qu'on avait déjà pensé qu'on appelait le Vet Center pour promouvoir l'oralité traditionnelle africaine en maison de l'orateur. Et donc, c'est depuis 2021 et légalisé comme association depuis 2024 en France. Et donc, voilà, voilà un peu la petite histoire liée à la
Et
maison de
qu'est-ce que
l'orateur.
vous faites? Vous faites des rencontres, des recherches? Alors, et la question que je vous pose, c'est simplement si les gens sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent s'y abonner? Mais d'abord, savoir qu'est-ce que vous faites?
Oui, la maison de l'orateur est une structure multifonctionnelle. Elle collabore avec l'autre réseau que nous appelons le réseau international pour la promotion des arts et de l'oralité, le RIPAO. Les deux sont liés. Non seulement pour faire de la recherche, on organise par exemple des journées d'études. La dernière en date fut organisée le 19 novembre
Très bien.
à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris sur la renaissance de l'art oratoire en Afrique. Elle organise aussi des concours d'éloquence. Depuis 2020, par exemple, nous organisons le concours international d'éloquence de l'Université Senghor, qui voit la participation des francophones venus du monde entier tous les 2 ans. Et depuis 2023, nous organisons aussi le concours international des débats art du RIPAO, qui est un concours en ligne, et donc qui cette année était à sa deuxième édition et qui a vu la participation de plus de 180 orateurs venus de plusieurs pays, Haïti, France, Togo, Cameroun, Congo, et pour ne citer que ces pays-là, et des concours d'éloquence. Mais au-delà de tout, nous formons en prise de parole en public. Et personnellement, j'ai enseigné le cours d'oratoire à l'Université Senghor Alexandrie, les campus de Szeged en Hongrie. J'interviens à l'Académie de Créteil pour sur ce qu'on appelle la pédagogie à travers le débat pour former les tout-petits à la prise de parole en public. Nous collaborons aussi avec la Fédération francophone de débat où nous organisons des concours d'éloquence et on forme. Et de manière individuelle, lorsqu'un homme politique, lorsqu'un influenceur qui veut prendre la parole en public, les personnes qui veulent devenir influenceurs veulent prendre la parole en public et tout, elles se rapprochent de nous, de la maison d'orateur et nous pour des formations. Et voilà, entre autres éléments que la maison de l'orateur ah, à son
Très
actif
bien.
comme activité.
Impeccable. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. N'hésitez pas à voir tout ce qu'il fait, parce que vous voyez bien que c'est d'un très haut niveau et d'une très belle qualité. Et donc, si vous avez été sensibilisé, n'hésitez pas à lui mettre des messages privés, de façon à lui dire tout ce que vous avez apprécié sur ce qu'il a dit. Et puis après, si vous voulez avoir plus d'informations, ben, à vous de vous organiser là-dessus. Merci beaucoup, Narcisse Fomokong. Merci à vous. Bye bye à tout le monde.
Merci et merci à vous. Bye à tout le monde.